Bonjour à tous, vous écoutez sûrement ce podcast dans votre voiture, bloqué par une dizaine de gilets jaunes éméchés alors que vous voulez juste rentrer chez vous pour jouer à Red Dead Redemption 2. Pas de panique puisque j'ai une info que je ne pouvais pas passer sous silence, l'étalon du kilogramme va changer. Depuis 130 ans, pour peser quoi que ce soit, nous nous référions à un objet physique, à savoir un cylindre en platine iridié conservé en France qui a eu des copies envoyées partout sur Terre pour que tout le monde ait le même référentiel. Mais contrairement aux 6 autres unités de mesure universelles, celle du kilogramme s'abîme puisque naturellement tous les objets s'usent. Créant donc des mesures faussées. Et c'est grâce à la 26e conférence des poids et mesures qui a eu lieu en novembre que désormais le kilogramme sera mesuré en fonction de la constante de Planck. Et qui dit constante dit immuable. Le kilogramme est prêt pour le futur, même si forcément ça va aussi changer la définition de la mole, de l'ampère et de la candela. Si vous n'avez pas bien compris, retenez juste qu'on pourra maintenant calculer de façon mathématique à quel point je suis lourd. Sinon, vous êtes bien dans le podcast qui vous apprend des faits scientifiques alors que vous n'avez rien demandé, et accessoirement sur la critique de l'actualité du cinéma vue par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 16. Aujourd'hui un programme sous le signe de 30 nuances de gris et de gourou puisque nous parlerons de Suspiria, de l'hôtel El Royal et des animaux fantastiques. Exactement, numéro 2. Pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe de succubes, à savoir Cédric, Claire, Marine et Fiona. Nous avons deux missives au courrier des lecteurs cette semaine. Le premier d'une certaine Cécile. Elle tient à nous dire que nous avons bien relevé les problèmes de Bohemian Rhapsody en soulignant qu'à aucun moment nous ne voyons la difficulté d'écrire des chansons comme si le talent tombait tous les jours tout cuit dans la bouche de Freddie Mercury. Elle précise qu'une bonne dramatisation passe par un conflit alors que son absence laisse trop apparent les mécanismes du film. On n'aurait pas su dire mieux. Merci Cécile. Un autre de Anne qui dit bravo pour notre podcast et qui voulait revenir sur Halloween et nous dire qu'il y a eu des nouvelles icônes du film d'horreur depuis Scream, notamment Jigsaw. C'est vrai qu'on l'a oublié celui-là. Et dans une moindre mesure, Annabelle, en tout cas pour les jeunes. Merci Anne, et n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook de C'est quoi le pitch. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie et se verra retirer la parole immédiatement. On commence par les animaux fantastiques, écrits par J.K. Rowling elle-même, si je veux dire, et c'est Claire qui nous le pitch.
Alors, nous sommes en 1927 et le mage Grindelwald, une sorte de pré-nazi ultra-cheaté, réussit à s'évader lors de son transfert vers l'Europe. Direction Paris, où il compte rassembler tous ses disciples et partisans et également retrouver Credence, un Obscurus, qui le pense être le seul capable d'éliminer Albus Dumbledore. De son côté, Dumbledore, qui ne peut affronter Grindelwald, demande son aide à Norbert Dragono, enfin en anglais c'est Newt Scamander. Voilà, pardon, pour retrouver Credence. Alors celui-ci, au début, il hésite un peu parce qu'il n'a pas le droit en fait de voyager hors de l'Angleterre. Et puis finalement, en apprenant que l'amour de sa vie, la jolie Tina, est à Paris à la recherche de Credence, elle aussi, il décide de se lancer à la poursuite du jeune homme. Ou peut-être de Tina, ou peut-être de Grindelwald. Enfin, c'est pas très clair, vous allez m'expliquer parce que moi je
reprends. Fiona, toi la spécialiste d'Harry Potter.
Alors, je suis effectivement une grande fan de Harry Potter et J.K. Rowling est probablement la personne que j'ai le plus envie de rencontrer dans ce monde. Et c'est pour ça que ça me fend le cœur de dire que J.K. Rowling est une excellente romancière, mais qu'elle n'est pas une bonne scénariste. Oh. C'est pas le même média et ça se voit. Il y a beaucoup trop de personnages, c'est extrêmement confus tout au long du film. Et, bon, je ne sais pas si quelqu'un...
Très bien, Marine.
Non, je voulais féliciter Claire parce qu'elle a fait un pitch que j'ai compris et je n'avais pas compris grand-chose au film. Je trouvais que c'était assez confus. Ça m'a fait marrer quand tu as parlé de Grindelwald nazi. Pour moi, je voyais un mix entre les nazis et Jean-Paul Gaultier. C'était vraiment bizarre. Aussi parce qu'il a les cheveux blancs, il a le même look. C'est hyper bizarre le look. Enfin, on s'est dit, mais est-ce que ça se passe à Paris? Et du coup, leur seule référence, c'est Jean-Paul Gaultier.
Et il est gay aussi, c'est ça que tu voulais dire, hein.
Bah alors là j'ai pas été jusque là, mais en plus j'avais pas compris ça dans le film, j'ai dû demander à Fiona parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris la relation d'Albus Dumbledore avec Grindelwald, où effectivement on comprend que visiblement ils ont eu une relation amoureuse, c'est ce que j'ai compris après le film, mais l'intrigue était très confuse, trop de personnages, trop d'histoires qui partent un peu dans tous les sens avec des objectifs pas forcément très clairs. Cela dit, j'ai bien aimé.
Ah, quand même.
Parce que je ne sais pas si c'est l'ambiance ou les personnages qui sont quand même tous Original, inattendu. Enfin, en tout cas, c'est l'univers d'Harry Potter. Je pense, effectivement, si on n'accroche pas à l'univers d'Harry Potter, je suis pas sûre qu'on aime le film. Mais je suis tombée dedans. Ça m'a quand même accrochée jusqu'à la fin, même si je suis pas certaine d'avoir compris l'ensemble de l'histoire.
Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, qui, je crois que j'ai vu deux ou trois films Harry Potter, pas plus. J'ai jamais lu un bouquin. Et pourtant, j'ai quand même pris un plaisir certain. Alors, j'ai regardé le 1 que j'avais pas vu, je l'ai regardé la veille pour me renseigner, pour être au courant de l'histoire. J'aurais pas vu le 1, je pense que ça aurait pas changé énormément. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est qui est le personnage principal de ce film ? Voilà, Cédric.
Pas Norbert.
As-tu un avis sur la question ?
Bah, effectivement, on se demande un peu qui est le protagoniste. Il y a beaucoup de personnages. Je suis d'accord avec Chana, je pense que j'aurais préféré lire le livre que voir le film. Après, il y a plein de petites trouvailles visuelles qui sont sympas. Je ne sais pas si on peut parler de scénario, mais moi aussi, j'ai passé un bon moment. Mais je ne pense pas que ce soit le scénario du film qui m'ait vraiment transporté.
Oui, Fiona ?
Alors, pareil, hein, je tiens quand même à préciser, j'ai passé un bon moment parce que quand même, on en prend plein les yeux. Il y a effectivement plein de trouvailles visuelles qui me donnent moins envie de qu'ils refassent des remakes de Harry Potter. Parce que comme ça, il y aura une histoire et des trouvailles visuelles. Dans le fond, ce sera trop bien. Mais c'est vrai que pour l'histoire, en fait, on a un problème, c'est que donc, tout le monde cherche Credence. Credence cherche à savoir qui il est, mais ce qui est déjà bizarre avec cet objectif de chercher Credence, on est quand même dans un monde magique, ça ne devrait pas être si compliqué de le retrouver, en fait. Ne serait-ce que dans Harry Potter, comme c'est quand même les mêmes codes, tu peux envoyer une lettre à quelqu'un, la lettre, elle finit par lui arriver, donc on ne comprend pas.
Ah oui, c'est pas très compliqué, en fait, il suffit de suivre la lettre.
Voilà, on ne comprend pas pourquoi c'est si difficile de mettre la main sur Credence.
Claire.
Pourquoi c'est si difficile ? Bah parce qu'il faut faire du remplissage. Et en fait, c'est ça le problème scénaristique de ce film. Il faut faire 5 films, les gars. Donc,
Cinq
films, ouais. Donc, on va être dans un film qui va toujours, toujours retarder le vrai moment, en fait. Le vrai enjeu du film, qui est genre la dernière partie, le dernier acte, avec Grindelwald, etc. Excusez-moi, je le dis super mal. Et en fait, toutes les intrigues annexes sont vraiment du remplissage, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de l'État, c'est ça ?
L'État Lestrange.
Enfin, ça ne fait jamais. Enfin, si ça n'avait pas été là, Queenie, etc. Si ça n'avait pas été là, finalement, l'intrigue aurait été la même.
Attends, c'est lequel Queenie déjà ?
Queenie, c'est la fille, du boulanger qui change de camp, on ne sait pas trop pourquoi.
Alors, la copine du boulanger.
Oui, la copine. Enfin, la petite copine, c'est ça que je voulais dire.
Oui, parce que justement, le boulanger, moi, qui est un personnage que j'avais bien aimé dans le 1. Et justement, la fin du 1, c'est pour moi la meilleure scène du film, celle où il accepte d'oublier pour la protéger. Et finalement, on dit non, finalement, en fait, ça n'a pas marché sur moi parce que c'était que les mauvais souvenirs. C'est quand même un retournement de situation. Alors, je ne sais pas, tu peux me dire si c'était dans le bouquin ou pas.
Il n'y a pas de bouquin. Elle a écrit directement le scénario. C'est pour ça que je pense que si elle avait écrit ses livres en format livre avant de roman, avant de les scénariser, ça aurait pu marcher. Mais je pense que s'attaquer directement. En format script, elle ne sait pas le faire, je pense.
Oui. Claire.
En fait, tu me dis si je me trompe, Fiona, mais en fait, les animaux fantastiques, c'est un recueil des animaux dans l'univers d'Harry Potter, en fait.
Oui, c'est juste un bestiaire, c'est juste un petit livre rigolo pour faire annexe, mais c'est tout.
Et en fait, ils se sont dit, haha, on va en faire un film.
Mais est-ce que vous seriez d'accord
Et ça ne marche pas.
Si c'était pas J.K. Rowling qui avait écrit ce film, vous auriez dit, ah, il a pas compris l'univers, il a pas réussi à comprendre la quintessence et la merveilleuserie de ce qu'est Harry Potter.
Les autres adaptations, elles respectent totalement.
Il y a d'autres adaptations.
Non, mais celle d'Harry Potter. Elle respecte totalement l'univers de
Harry Potter.
Oui, mais c'est parce que ça suit un bouquin. Là, si ça suit un bouquin, ça suit juste un recueil d'animaux, un bestiaire.
Non, mais c'est tu suis un bouquin, mais si elle avait écrit.
En même temps. Oui, Fiona.
Mais alors, je suis d'accord, il y a quelque chose qui, pour moi, là, où J.K. Rowling me surprend, malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Je trouve qu'il y a un gros problème au niveau du personnage de Albus Dumbledore. Par rapport. Alors là, ce qui est dur aussi pour ce film, c'est que je pense que si vous n'avez pas vu le premier Animaux Fantastiques, enfin, toi, tu n'as pas eu ce ressenti, Guillaume, mais ou si vous n'avez pas une grosse connaissance quand même de l'univers Harry Potter, je pense que vous êtes encore plus largué, alors qu'on l'est déjà quand on la connaît, mais ça à part.
Bah, il n'y est pas dans le 1 de Dumbledore.
Non, mais sur sa backstory avec Grindelwald, dans les livres, elle est exploitée un petit peu. Et en fait, là, le problème, c'est que. Dumbledore est un personnage qui est souvent un peu omniscient. Et je pense, et vous me direz si vous avez compris ça aussi ou pas, que Dumbledore sait, alors attention, c'est un 100% spoil, donc sait que Credence est son frère, est en réalité Aurelius Dumbledore, personnage qui d'ailleurs n'existe pas dans les livres, donc ça m'a un peu dérangé, mais bon, c'est son univers, elle fait ce qu'elle veut. mais ce qui est bizarre, c'est que je pense qu'il le sait, que c'est lui. Credence, c'est un pauvre jeune homme qui manque d'amour et qui veut juste savoir qui est sa famille. Donc je ne comprends pas pourquoi Dumbledore ne va pas voir Credence, lui dire que c'est son frère. Et le problème est réglé, il n'a pas besoin d'affronter Grindelwald pour ça. Donc je ne comprends pas son pacte.
Puisqu'en plus, ce n'est même pas ce qu'il demande à Norbert. Oui, enfin, héros, donc...
Marine ?
Oui, mais on ne sait pas si Dumbledore, il est au courant que... Enfin, moi, c'est vraiment un des problèmes que j'ai eu pour la compréhension de l'intrigue. C'est à aucun moment, on comprend si Dumbledore sait qui est son frère ou s'il le recherche ou s'il n'a juste aucune idée. Enfin,
oui, moi, moi non plus, j'ai pas compris.
Aucune information par rapport à ça. Et après, moi, j'ai eu d'autres soucis du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intrigues et beaucoup de personnages et que c'est difficile à suivre. Mais par exemple, le personnage de Queenie, pour moi, ne marche pas du tout. Alors déjà, comme dit Guillaume, il y a énormément de facilité. C'était super chouette dans le 1 qu'il est la fin, effectivement, où il oublie la mémoire, il perd la mémoire et puis c'est réglé entre coups de cuillère à peau dès le début du film, donc déjà la première grosse facilité. Et puis elle, après, sa trajectoire, elle est incompréhensible parce qu'elle retourne sa veste en quelques secondes. Il y a quand même cette scène où elle rejoint donc Grindelwald et elle lui hurle dessus à son copain en lui disant « Viens avec moi !» Elle lui dit « Mais t'es folle !» Or, on ne nous a jamais présenté ce personnage comme étant une folle... elle est un peu dingue, mais de là à changer comme ça d'attitude, alors que j'ai beaucoup de mal à accepter son... Je trouve que c'est pas bien implanté avant, c'est mal amené... On comprend pas pourquoi elle passe dans l'autre camp.
Elle passe pas d'un parti politique à un autre. Elle passe dans un camp qui prône l'extermination de 90% des humains. Il faut quand même une certaine motivation pour faire ça, Cédric.
Enfin, la domination, l'extermination, je sais pas, mais...
Ah si, il le dit. Il dit, on va en garder quelques-uns. Ouais. On va en garder quelques-uns parce qu'il faudra toujours, en gros, quelqu'un pour faire la vaisselle. Mais c'est justement un des reproches que je fais à ce film. Alors, je sais pas qui a copié qui, mais c'est exactement la trajectoire de Magneto dans X-Men. Magneto considère que les mutants sont supérieurs aux humains et dit, on va tuer tous les humains parce que la Terre nous appartient. Là, je suis désolé.
C'est un grand classique, c'est pas une question de copier, c'est quand même.
C'est exactement ça. C'est nous les magiciens, on est supérieurs. Et force est d'admettre que oui, c'est vrai, ils nous ont supérieurs. Et ils décident de dire je vais tuer tout le monde pour contrôler la Terre. Oui, Marine.
Oui, je voulais revenir sur le fait qu'il y ait beaucoup de facilité dans le film. Il y a des scènes. Qui sont typiques de ça, je trouve l'ouverture, un peu après l'ouverture du film avec Grindelwald, quand ils occupent une maison qui devient leur planque, et pour se débarrasser des gens qui habitent dedans pour pouvoir habiter cette maison, donc ils les tuent. Il y a un couple qui habite dans cette maison, et puis ils découvrent que, en fait, il reste le gamin. Et t'as la scène, évidemment, où ils rentrent dans la chambre, ils regardent le gamin, et tu comprends qu'ils vont le tuer. Et en fait, je trouve que c'est tellement... déjà vu et revu, et tu dis,
c'est une référence
à
Harry Potter.
Oui, c'est une référence à Harry Potter, mais c'est vraiment lourd en fait. Où tu te dis, tu poses le méchant, il est tellement méchant que il va même tuer des enfants. Et aussi, c'est effectivement une référence à Harry et à Voldemort, mais il y a pas mal de choses comme ça qui sont d'une facilité où t'es vraiment tout petits éléments comme quand l'État est aux archives et qu'elle lit sa lettre à voix haute et eux ils sont cachés derrière le pilier d'archives et ils écoutent. Enfin, quel est le besoin qu'elle lise sa lettre à voix haute ? Il y a plein de...
Autre grosse facilité quand ils sont au Père Lachaise et qu'ils ont... Il y a toutes les révélations qui sont faites en flashback. Et ensuite, ah non, ce n'était pas ça. Attendez, je vais vous refaire un flashback. Le niveau d'écriture, zéro là. En fait, ils bourrent tellement le film d'intrigues qui ne sont pas utiles qu'à la fin, on n'a plus le temps de s'attacher aux personnages, on n'a plus le temps de les suivre, on ne les suit pas psychologiquement en fait.
C'est typique avec Nicolas Flamel par exemple, qui est sous-utilisé au possible. Il débarque à la fin.
Le serpent de Voldemort.
Mais le Nicolas Flamel, qui est un personnage quand même important, Fiona, tu confirmes?
Oui, non, mais justement, c'est Potter, c'est ce que
il débarque à la fin et il leur dit mettez vos baguettes par terre. Et puis c'est tout ce qui s'est réglé.
Mais Nicolas Flamel, le chimiste.
Celui qui est immortel.
Il est important dans Harry Potter.
Oui, enfin, en tout cas, son nom est important. Voilà, on va dire que dans...
Mais là, il est placé comme un personnage. Est-ce que c'est juste du fanservice?
Justement, sur le fanservice, moi, je trouve qu'il y en a quand même un peu trop et mal utilisé. Parce que justement, moi qui suis fat, je veux du fanservice. Donnez-moi, rendez-moi service. Mais justement, Nagini, est-ce qu'on a besoin de savoir... Donc Nagini, normalement, c'est le serpent de Voldemort. Est-ce qu'on avait besoin de savoir que c'était une femme avant? Pourquoi pas? Mais
non, mais ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment typiquement pour faire plaisir de dire oh, c'est de là d'où vient Nagini. Et pareil, c'est un peu du name dropping parfois, même sur les Lestrange, qui est un personnage très important dans Harry Potter, et Bellatrix l'étrange, je ne sais même plus le dire.
McGonagall
aussi. Mais par contre, j'ai trouvé que les scènes de flashback à Poudlard étaient sympas. Enfin, voilà. Ça, pour le coup, c'est du bon fanservice.
C'est ce que j'allais dire. Même moi, je ne vais pas dire que j'aime pas Harry Potter, mais c'est pas ma passion. La scène où il retourne à Poudlard avec la musique d'Harry Potter qui revient et l'autre qui couvre son casier, c'est à regarder, c'était votre enfance. Forcément, ça marche sur les gens qui aiment Harry Potter.
Justement, ça c'est du bon fanservice, contrairement à juste replacer des noms des personnages qui ont juste la même lignée et que ça ne sert à rien parce que après on va nous mettre cette histoire très compliquée et un peu sopesque de famille ou d'échange de bébés, de drama.
J'avais l'impression de voir de la télé-novela. Ouais.
Et le problème aussi, pareil, le film porte très mal son nom, Les Crimes de Grindelwald, non.
Mais quel crime ?
Voilà, quel crime ? Enfin, il s'est échappé de prison. Il
tue,
pardon, il tue des gens, mais on ne traite pas de ça, quoi.
Alors, un, il est commanditaire de l'assassinat d'un gosse, et puis d'autre part, il prépare l'extermination de la planète. Excusez-moi si j'appelle ça un crime, quand même. Mais j'aimerais juste. Alors là, c'est pas un défaut que je fais au film, mais un défaut à ce genre-là, entre guillemets. Dès qu'il y a de la magie, j'ai l'impression que les gens n'évoluent pas. On voit Poudlard, c'est ça qu'on s'appelle ? Poudlard. L'école dans les années 30. Je pense que Harry Potter, c'est exactement la même chose.
Si, ils ont changé les robes, elles sont bleues.
Ouais,
là,
voilà. Je veux dire, nous les Moldus, on voit les Moldus dans les années 30. Harry Potter, ça se passe dans les années 2000.
Oui, ils évoluent moins vite.
Mais ils n'ont pas besoin.
Ils sont bien
passés d'un stade zéro au stade où ils savent s'habiller, ils savent utiliser des baguettes magiques, donc ils ont bien dû augmenter, évoluer. Donc, ils n'évoluent plus. Bah non, absolument pas. Dumbledore, il vieillit bien. Il a bien, je sais pas quel âge.
Il a plus 180.
Ouais, 130.
Voilà. Et on en revient à l'autre problème que je fais. Peut-être que tu connais mieux que ça. Mais pourquoi il n'interfère pas dans le monde ? Ça, j'ai pas compris. C'est-à-dire que l'autre, parce que là, apparemment, le méchant, il voit dans le futur. Et il dit, regardez, il monte des trains qui amènent des juifs dans les camps. Et il monte aussi la bombe atomique. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui va se passer. Et ils ne font rien. Exactement comme le Wakanda. Hein, je voudrais pas dire. Mais c'est-à-dire que c'est des mecs, ils sont là, ils ont les moyens technologiques. / magique d'empêcher ça, ils disent non, on va rien faire.
C'est toujours le d'intervenir, c'est de leur dire on va exterminer tous les Moldus comme ça.
Pour éviter,
ça,
pour...
c'est la solution. D'accord.
C'est le fameux pour vivre heureux, vivons
cachés. Mais c'est en plus de violence pour endiguer la violence. C'est pour éviter
que les humains se massacrent entre eux. On va les massacrer d'abord.
Mais justement sur cette scène de fin là, pareil. Je comprends pas le but de Grindelwald dans cette scène. Je sais pas ce qu'il fait. Enfin, t'as compris, Marine, toi ?
Non, j'ai pas compris. J'ai un autre problème.
Je voulais
savoir ce que vous en pensiez parce que je trouve que c'était déjà le problème dans le premier. J'ai du mal à comprendre que fait Newt dans cette galère.
Rien, c'est un touriste.
Voilà. Parce que lui, c'est un mec qui s'occupe des animaux fantastiques. C'est le titre du film. Et donc, il aime les animaux. D'ailleurs, ce qu'on se disait avec Fiona, c'est que comparé au 1, il a l'air d'être encore plus autiste que ce qu'il était dans le 1. Parce que
il avait
des problèmes de sociabilité. Ouais. Il était un petit peu mal à l'aise, etc. Mais on a l'impression que dans le 2, il a poussé ça encore plus loin. Ce qui est un peu bizarre.
Il regarde même plus du tout les gens dans les yeux.
Là, ça devient... Voilà,
personne ne regarde personne dans les yeux.
Personnellement, je pense que c'est son rôle de Stephen Hawking qu'il a vraiment
traumatisé.
Et donc, bon, lui, ce qu'il aime, c'est les animaux, c'est protéger les animaux, c'est s'occuper des animaux. Et quel est le rapport avec cette histoire, avec Grindelwald et, déjà, dans le 1, j'avais du mal à saisir pourquoi il allait dans cette galère. Et bon, là, c'est peut-être un peu plus vicé avec Dumbledore qui le lui demande.
C'est ça, c'est Dumbledore dit, tu es la seule personne... Honnête, tu me penses. Parce qu'il lui dit, il y a des gens qui ne pensent qu'à leur carrière, qui font ça. Toi, tu es complètement désintéressé, tu ne t'intéresses. Si quelque chose est juste, tu le fais, comme il fait pour les animaux. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui fasse des choses justes, c'est-à-dire arrêter le méchant. Moi, je peux
mais
pas.
Mais il le fait pas.
Il n'y arrive pas.
Pas encore. Mais...
Pas encore.
Mais
parce que t'as dit qu'il y avait 5 films, c'est pour ça.
C'est comme le Hobbit. C'est celui qui a pas la volonté de dominer qui doit
en fait,
agir.
C'est ça le problème. Il y a pas de début, il y a pas de milieu, il y a pas de fin. C'est juste.
C'est une bande-annonce pour les trois autres films, en fait.
C'est ça qui est c'est vraiment dommage.
Racontez-nous une histoire, quoi.
Justement, c'est vraiment dommage parce que dans... inspirez-vous, j'ai envie de dire, les Harry Potter. Dans les Harry Potter...
C'est bouclé.
Chaque film est bouclé, mais il y a une intrigue globale qui se joue sur, non pas 7 en plus, mais 8 films. Donc c'est possible. Pourquoi on n'arrive pas à reproduire ça je sais pas, par manque de temps, ou c'est vraiment dommage.
C'est ce que Claire déplorait dans je ne sais plus quel podcast en disant qu'aujourd'hui les blockbusters sont souvent des bandes annonces du prochain. Et c'est vrai que là, mais là on reprend la structure vraiment de Star Wars 5 où c'est vraiment les méchants qui gagnent, c'est Dark Vador, le mec est blessé, les méchants ont tout gagné, comment ils vont faire? La fin du film, c'est ça. C'est pour ça que je suis étonné. Pour moi, quand j'ai vu la fin du film, je dis ah, il va en avoir encore un. Et puis c'est bon, je vois pas comment on peut faire trois films encore derrière ça.
Il y a cinq films annoncés en tout, donc là c'est le deuxième, mais il en reste trois.
Ça va être long.
C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment dommage parce que vraiment, en fait, les enjeux sont trop faibles quoi. Juste tout basé sur Creedence, c'est ça le problème en fait. On a tout basé là-dessus.
Il y a pas assez d'animaux fantastiques. Je suis désolée, mais ça.
Mais d'ailleurs, tu dirais que c'est un tout petit.
Ils sont sympas, ils sont mignons, ils sont sympas.
Si, il y a un moment, ils se sont dit, il faut qu'on justifie le titre. Mais au moins, il va dans sa valise. Et puis pendant 10-15 minutes, il fait mumuse avec des
chevaux algues. Moi, je trouve, c'est parti qui marche le mieux. Si, c'est avec les animaux.
Non, parce que c'est joli, mais ça change rien à l'histoire quoi. Mais c'est vrai.
Mais le boulanger non plus. Moi, j'ai beaucoup aimé le boulanger, mais là, tu l'enlèves de l'histoire, il ne sert à rien. À aucun moment héroïque, à part regretter que sa copine parte et tout ça pour.
Parce que leur intrigue, elle est sous-exploitée. Ils ont tellement d'intrigues à traiter en même temps, de personnages à traiter en même temps, ils n'ont pas eu le temps de pousser à fond l'intrigue entre Queenie et je ne sais plus comment il s'appelle.
Le nombre de personnages qui servent à Jacob, le nombre de personnages qui servent à rien. Je m'en Nagini ne sert à rien. Il y a vraiment trop de personnages inutiles.
Ouais, mais on voit qu'elle en a le sous le pied. On sent qu'elle a envie de faire 5 films. À partir du premier, je me suis dit, on ne peut pas faire 5 films. Là, je me dis, bon, ouais. Oui, Cédric.
Moi, je me suis demandé si c'était un film pour enfants. Parce que Harry Potter, a priori, c'est des films qu'on pouvait voir avec ses gosses. Et celui-ci, alors, c'est quoi votre avis là-dessus?
Je me suis fait la même réflexion. C'est beaucoup plus sombre, en fait. Bon, même si
mais
c'est
Harry
moins
Potter
bien.
Harry Potter aussi. Enfin, moi,
Harry Potter, ça progressait.
Que j'aime bien avec Harry
ça progressait au début.
C'est ah, en même temps.
Très
en
assumé, même quand même.
Ça progressait, Harry Potter, au fur et à mesure, en grandissant avec lui, l'univers devenait de plus en plus sombre. Mais là, vous remarquerez quand même que Grindelwald, à côté, Lord Voldemort, il fait... petit joueur quand même, hein. Le mec qui veut détruire Paris. Voldemort, il a jamais fait ça de sa vie. Hein.
Mais c'est quoi son but à Voldemort en fait? Il veut faire quoi lui?
Pareil, il veut tuer les Moldus. Hein.
Ah bon? Donc en fait, c'est un sous.
Les Moldus en fait. Et aussi les sorciers qui ne sont pas de sang pur.
Ouais, okay. Enfin, il veut récupérer sa pleine puissance.
Oui,
surtout ça qu'il fait pendant
à la base, s'il veut devenir si puissant, ouais. C'est ça son but ultime. Quoi.
Très bien. Bon, bah tour final sur ce film, Cédric.
Ben, j'irai pas voir les autres, je pense. Voilà.
Ok, Claire.
Je recommande pour les fans d'Harry Potter, mais si vous aimez pas, enfin particulièrement, n'allez pas voir ce film.
Ok, Marine.
Moi, je recommande, mais j'irai voir le troisième, mais j'espère qu'il y aura plus d'animaux fantastiques, parce que j'ai été méga déçue. Fiona m'avait dit, mais c'est écrit tout petit dans le titre, il y en a moins,
mais
quand même.
Et si c'est des animaux pas fantastiques, est-ce que tu iras le voir quand même?
Oh bah non, c'est fantastique dans le titre.
Ouais, d'accord. Fiona?
Comme une fana de Harry Potter que je suis, ben forcément, j'aime me retrouver dans cet univers-là. Donc oui, si vous aimez cet univers-là, vous êtes servi et c'est pour ça que je vais regarder les autres. Mais je suis vraiment déçue et il n'y a pas d'histoire et les enjeux ne sont pas bons. Et je suis déçue aussi même de Dumbledore. Par contre, je suis contente qu'on évoque un petit peu, au moins un peu sa relation homosexuelle avec Grindelwald. C'est très légèrement abordé. J'espère que ce sera un peu plus développé dans les films suivants. Et ils ont aussi oublié de préciser quelque chose dans le film. Ils expliquent qu'ils ne peuvent pas s'affronter Grindelwald et Dumbledore parce qu'ils ont fait un pacte de sang, mais je pense que c'est une référence aussi au serment inviolable qu'il y a dans Harry Potter. Il nous explique pas les conséquences. Normalement, dans Harry Potter, un serment inviolable, si tu le violes, tu meurs.
Ah oui.
Donc ça rend les enjeux un peu plus clairs, parce que là, on dirait juste que c'est une promesse de vieux pote. Je pense que c'est pas ça.
Mais pourquoi il lui dit pas alors aux flics qui viennent l'arrêter
Non, mais c'est pas clair. Et pareil, il y a la fiole avec les deux. Bon, on comprend pas ce que ça veut dire. Enfin, les choses sont pas.
Oui, parce qu'en gros, il a récupéré le contrat qui a dit je te tuerai pas. Et donc, du coup, il va le brûler, comme ça, il pourra l'attaquer aussi.
Je crois que l'idée, c'est de désarmer ce serment inviolable pour pouvoir se combattre l'un contre l'autre.
Ok, très bien. Mais écoute, moi, j'ai trouvé ça trop long. Très foutraque, mais pas déplaisant.
Ça
se laisse regarder, les images sont très belles. Il y a des animaux fantastiques qui font plaisir à Marine. Il y en a quelques-uns. On continue avec Suspiria, écrit par. Alors, excusez-moi, je vais probablement l'écorcher. David Kajnanik, je suppose. Et c'est Fiona qui nous le pitch.
Alors, Suspiria, nous sommes en 1977 à Berlin. Susie Bannon, une danseuse américaine, rejoint la compagnie de danse de ses rêves, la compagnie Elena Marcos. Elle y rencontre son idole, la chorégraphe Madame Blanc, avec qui elle va nouer un lien particulier. Mais Suzy va vite se rendre compte qu'il se passe des choses étranges dans cette école de danse. Premier indice, la fille dont elle a pris la place dans la compagnie a disparu dans de mystérieuses conditions. Circonstances. Deuxième indice, lors de son premier cours, une élève hurle au professeur qu'elles sont d'horribles manipulatrices et les traite même, attention, de sorcières. Quoi ? Troisième indice, elle surprend ses professeurs se moquer du petit zizi de deux flics à qui elles ont baissé le froc et qui ne réagissent pas comme envoûtées. Maline, Suzy comprend que c'est une école dirigée par des sorcières flippantes. Mais cela n'est pas pour lui déplaire car Suzy devient en fait, ou était depuis le début, je n'ai pas compris, l'une des trois mères originelles des sorcières, la mère Suspiriorum.
Très bien, écoute, derrière ce sarcasme évident, il en reste un film extrêmement mauvais quand même. Parce que ce qu'on demande avant tout un film d'horreur, on demande deux choses. Soit on demande d'avoir peur, soit à fortiori au moins d'avoir du fun. Halloween, je sais que t'es pas ton cas il y a deux semaines, mais Halloween au moins on se marrait, il y avait du fun. Là, c'est un ennui profond pendant les 2h20 que dure le film, et surtout ça ne fait jamais, jamais, jamais peur. On voit des scènes de danse pendant 2 heures, et les 20 dernières minutes finies dans un bain de sang ou filmé tout en rouge, on ne voit rien, et ce film est un ratage complet et total pour moi.
Schopenhauer disait « La vie aussi comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. » Et dans ce cas, Suspiria est une métaphore de la vie, Suspiria aussi comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. 2h32, ce qui m'ont paru interminable. En fait, quand je suis sortie de la salle, vraiment, j'étais surprise qu'on soit encore en 2018. J'ai détesté ce film. C'est
qui est le réalisateur alors, de ce film.
Oui, oui. Alors, c'est le même réalisateur de Call Me By Your Name. Mais j'ai pas aimé Call Me By Your Name, mais ça n'a rien à voir, vraiment.
C'est vrai que ça fait 2 fois que il nous embête cette année.
Il m'en veut. Je crois qu'il m'en veut. Je pense que c'est même la punition pour avoir dit du mal de son premier film.
On n'aurait peut-être pas dû.
Non, mais pour être plus sérieusement, je pense que j'ai regardé. Je me suis un peu renseignée sur Internet et les gens parlent vraiment d'une expérience. Et donc peut-être qu'il faut le voir comme ça. Mais pourquoi cette expérience-là, quoi ? C'est il y a d'autres expériences à faire dans votre vie que d'aller voir Suspiria, je vous assure.
Bon, on va entrer quand même dans les points positifs, parce qu'il y en a. Déjà, le film se finit. point positif. Et deux, non, les scènes de danse sont plutôt bien faites. Il y a une scène de danse, enfin, il y a l'entraînement, et enfin, il y a une représentation qui est parallèle à chaque fois en fait, qu'elles font une danse importante, il y a quelqu'un qui meurt parallèlement à ça. Et le costume est très joli, où elles sont habillées avec des ficelles rouges. Et il y a une femme, pardon ?
Du scénario.
C'est pas du scénario.
C'est vrai, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le scénario, donc je m'attarde sur les costumes. C'est pire que ça, les costumes. Et cette scène-là est très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en positif.
Alors, moi, effectivement, les scènes de danse, elles sont des danses. Je sais pas si vous avez vu la série The OA. Elle danse un peu de manière un peu rituelle, oui. Comme ça, et ça me rappelle ce genre de danse un peu brutale qui marche bien. Et d'ailleurs, je pense pour moi, la seule scène vraiment à sauver du film, c'est la scène qui est assez très glauque, hein, où elle danse et en même temps, son corps est relié à une autre nana qu'elle ne voit pas. Et en fait, en dansant, elle la torture de manière absolument abominable. Mais par contre, c'est vraiment glauque et horrible, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on souffre, hein, pour ça.
Non, tu exagères, moi, ça m'a rien
fait. Si, hein. C'est glauque quand même. Elle se pisse dessus, elle a la tête qui tourne, elle a la jambe par-dessus la tête.
Ouais, mais tu dis
son corps est déformé.
Tu dis enfin,
oui,
pas de gore.
Mais on se dit enfin, voilà, on est dans l'horreur. En fait, dans ce film, il faut que mon expérience a été acte 1, parce qu'il y a écrit les panneaux acte et tout ça. Donc acte 1, j'ai vraiment lutté contre le sommeil. Acte 2, je me suis dit, tiens, justement, il y avait cette scène-là, je vais donner une chance au film. Acte 3...
Attends, acte 3, on croyait que c'était le dernier. Parce que bêtement, on s'est dit, il y a 3 actes.
Acte 3, je me suis dit, j'ai eu tort de laisser une chance au film. Acte 4, j'ai prié tous les dieux de la Terre pour que ce soit le dernier. Acte 5, j'ai pleuré, littéralement pleuré. Acte 6, j'ai ri très nerveusement. Et épilogue.
Parce qu'il y a un épilogue.
Épilogue, j'étais une partie de moi est morte. Et oui. Suspiria, en fait, veut dire soupir. Et c'est vraiment le soupir de soulagement que j'ai ressenti quand enfin le générique est apparu. Et il faut dire quand même que la salle s'est vidée. Littéralement vidé sous nos yeux.
Non mais c'était régulier, c'est que toutes les 10 minutes, il y avait quelqu'un qui partait. Il y a même quelqu'un quand même qui s'ennuyait tellement qui a fait du stretching.
Oui, c'est vrai.
Et qui a mis ses jambes par-dessus sa tête parce qu'il s'ennuyait trop et s'est dit je vais faire ma gym.
Comme maintenant elle avait de la place.
Voilà, parce que. Mais non, mais attends.
Non, parlons vraiment de scénario. Pour
c'est
le coup.
Ça, j'allais dire.
En revenant sur le sujet, parce que là, on s'est amusé, mais. En fait, justement, le sujet principal, je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas ce que veulent vraiment ces sorcières, ce qu'elles veulent faire, à part apparemment soigner la mère Marcos, qui est une sorcière en décrépitude. Et du coup, il leur faut trouver une danseuse, ou un corps, pour transporter, on va dire, son âme, voilà, pour un nouveau corps, parce que le corps de la vieille sorcière, il.
Bah, c'est pour les chics, elle a le même objectif que Orochimaru dans Naruto. Son corps est pourri, donc du coup, elle veut un corps parfait de nouvel élève pour continuer à vivre éternellement.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression que Suzy donc, va être ce corps-là, mais quand elle arrive à la cérémonie complètement ridicule, grotesque
de
transplantation aux dames, j'en sais rien. Suzy est d'accord. Et d'ailleurs,
pouvoir,
ils disent que c'est pour ça que par rapport à l'autre, la précédente danseuse qui est partie, Suzy est volontaire. Elle a eu conscience de cette magie et elle est d'accord. Sauf qu'après, Madame Blanc lui dit T'es sûre, parce qu'en fait, on comprend qu'elle s'est vraiment pris d'affection pour la petite Suzy. Mais Suzy, ensuite.
Madame Blanc, qui est la directrice de l'école.
Voilà, la chorégraphe. Suzy, elle bute Madame Blanc et elle dit à la vieille sorcière en décrépitude qui est quelle est la sorcière fondatrice qui t'a créée ou je sais pas quoi. Elle dit c'est Suspirium, là, Suspiriorum. Et là, il y a une espèce de monstre qui arrive qui est censé être cette mère-là. Et Suzy dit c'est moi. Et alors là, tu dis mais c'est toi, genre maintenant, t'as décidé, tu le deviens, tu as toujours été, on ne comprend rien. Parallèlement, il y a une histoire dans politique. Qui n'est absolument pas relié.
Attends, on y reviendra ça. Marine, tu as
une question. Donc les sorcières, elles tiennent une école de danse. Mm-hmm. Pourquoi ?
Parce qu'elles cherchent un corps soi-disant parfait.
C'est relié à.
Ils nous le disent pas, ça nous
interprète. Ils nous disent pas, on interprète.
Non, en fait, je crois que c'est plutôt pour leur chorégraphie et le rituel, en fait.
Oui, après le rituel. Vous savez que le rituel est assez compliqué.
Non, le contexte politique, par exemple.
Oui, le contexte politique aussi. Pourquoi ? Alors, je sais qu'il a fait ce film parce que. C'est quand même un film à la base culte, entre guillemets, de l'horreur, qui s'appelait aussi Suspiria, qui est sorti en 77. Donc il a voulu mettre le film en 77 à cette époque-là. Sauf que l'année 77, il n'en fait rien. On voit le mur de Berlin, on voit des extraits d'infos où il y a des gens qui sont pris en otage, mais ça ne sert strictement à rien.
Oui, on nous dit, oui, la bande à Bader, etc., c'est terminé pour la bande à Bader. On nous dit que la Patricia qui a disparu, ce serait pour des raisons politiques. Et on voit aussi un psychiatre dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Joseph, je ne sais plus quoi, un ancien d'ailleurs rescapé de Caen apparemment, donc, qui en fait est joué par Tilda Swinton, mais ça n'a aucune importance.
Je pense qu'un des rares messages du film, c'est que c'est un film qui est quand même profondément féministe. Il n'y a que des femmes dans le film, et même le seul personnage masculin, qui est donc le docteur Joseph, qui est un vieux croulant de 95 ans, est joué en fait par la même actrice que Madame Blanc, c'est-à-dire Tilda Swinton, qui joue ça. Donc, et en fait, à mon avis, la scène qui veut dire ça, c'est la scène où justement Madame Blanc.
L'épilogue.
Non, la scène où elle apprend à essayer de sauter par-dessus. Elle essaye, pour moi, ça c'est une métaphore un peu lourdingue, de dire il faut s'élever au-delà de cette société, et donc elle lui apprend à sauter, et d'ailleurs. Pour lui montrer comment faire, elle prend, excusez-moi, la seule danseuse qui clairement ressemble à un homme.
Qui est un homme, oui. Elle a une prénom de fille, mais c'est un homme qui joue, c'est sûr.
C'est un homme qui. Ouais, pour moi, c'est un homme. J'ai cru qu'on était dans Girl. Et c'était bon, regarde les hommes comment ils arrivent à s'élever. Nous aussi, il faut qu'on fasse pareil. Et à mon avis, c'était le message un peu féministe du film.
Oui, mais alors justement, le féminisme, elle lui prend, entre guillemets, son pouvoir de sauter à l'homme et elle le transmet à Suzy.
Oui.
Je pense pas que s'élever ça veut dire voler le talent des hommes pour se l'approprier. Je vois pas le féminisme comme ça. Et effectivement, là, l'épilogue, t'as Suzy qui vient voir le vieillard qui était témoin du rituel, etc., parce qu'il fallait un témoin. Voilà. Et elle vient le voir et elle lui dit comme tu as été un très bon mari pour ta femme, qui quand elle est morte, ses dernières pensées ont été pour toi et pour les souvenirs que tu lui as procurés. Je vais être bienveillante avec toi et je vais t'enlever les souvenirs horribles que tu as vus, quoi, que tu as vécu. En mode, toi, tu es un gentil garçon. C'est bien. Et je suis désolée, moi, c'est un féminisme que je déteste voir. À part, effectivement, dans les danses qui sont un peu sauvages et assez guerrières, ça, c'est pourquoi pas, mais moi, je n'envisage pas le féminisme comme se débarrasser des hommes. Voilà.
Donc,
un point de vue, mais je partage pas ça.
Tu veux pas te débarrasser des moldus comme le mec dans.
Non, ni des moldus, ni des hommes.
Il n'y a pas de Dumbledore dans cette école de sorcières d'ailleurs.
Je trouve que c'est un faux féminisme de juste d'éradiquer la présence des hommes. Je trouve que c'est vraiment de bas étage.
Okay.
Ça me plaît pas du tout.
Allez, on s'arrête là pour ce film. Tour final, Fiona.
Je suis pas venue ici pour souffrir, ok.
Très bien. Écoute, je vais finir par un point positif. Je trouve que c'est un film qui a réussi à bien retranscrire la laideur de Berlin. Je veux dire, c'est une ville qui est extrêmement moche et ce film, vraiment toutes les scènes extérieures sont dégueulasses.
Ça, c'est personnel.
Et ça fait plaisir. Bah oui, mais oui, on est là pour donner notre avis personnel. Hein. Et on termine par Saltan à l'hôtel El Royal, écrit par Drew Goddard, c'est ça. Et c'est Marine qui nous le pitch.
Je vais essayer de mais pitcher ce film auquel je n'ai rien compris. Attention. Donc, l'hôtel El Royal, en son temps, était un hôtel splendide, mais aujourd'hui, en 1969, je crois à l'époque auquel le film se passe, a perdu de sa splendeur. Il n'y a plus personne à part un pauvre réceptionniste qui a bien du mal à répondre quand on appelle à la sonnette, parce qu'il met au moins, je pense, 40 bonnes minutes à intervenir dans la première séquence. Et dans cet hôtel vont arriver au même moment et se croiser au cours du film des différents personnages, je crois 7 en tout, avec voilà qui en fait ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Par exemple, un prêtre qui est en réalité un ancien cambrioleur qui s'est fait coffrer et qui est venu à l'hôtel pour rechercher le magot qui a été planqué dans l'une des chambres. Donc ça, c'est l'une des histoires, l'une des intrigues de l'hôtel El Royal. Et après, il y en a plein d'autres et ça va se croiser, mais je vais pas spoiler la fin parce que ce serait trop long.
D'accord, Fiona ?
Alors, c'était long, mais c'était pas mal. Alors après, peut-être que je l'ai trouvé... J'étais plus tolérante parce que le film que j'avais vu avant, c'est Suspiria.
Je pense. Et du coup, vraiment.
À côté de Suspiria, tous les films paraissent fantastiques. Même les animaux. Non, pour moi, c'est une espèce de vaudeville sous tarantinesque. Mais c'est plutôt distrayant. C'est trop long. S'ils avaient resserré un peu le timing, ça fonctionnerait. C'est très théâtral. Mais ça fonctionne pas mal dans le divertissement.
Est-ce que j'ai envie de te dire, est-ce que tous les huis clos ne sont pas un peu théâtral ?
Non.
Non ?
Bah, si c'est bien fait au cinéma, moi c'est un aparté réel. Mm-hmm. Je ne comprends pas qu'on fasse au cinéma une. Enfin, en plus, c'est toute la scène d'ouverture, ça pourrait être sur une scène de théâtre, ce serait pareil. Mm-hmm. On est au cinéma, on n'est pas là pour faire du théâtre. Donc c'est insupportable, en fait c'est extrêmement mal mis en scène, comment ils rentrent dans cet hôtel, ils se tournent autour, la salle d'accueil elle est ronde, donc comme ça ils font le tour là, il se passe rien.
Calme-toi.
Et alors après j'ai plein d'autres problèmes sur le film, en termes d'intrigue c'est incompréhensible.
Non, c'est pas vrai.
Alors c'est un hôtel qui a un système, en fait, ils filment les gens dans leur chambre, sauf que là, on est à l'époque où ce système s'est arrêté, puisqu'il n'y a plus personne, en fait, qui s'occupe de cet hôtel, mais il y a quand même la caméra qui traîne dans le passage secret qui leur permet d'accéder aux chambres pour filmer les gens. Il y aurait, en fait, eu une histoire, visiblement, d'un ancien président ou du président en place des États-Unis qui aurait été filmé pendant une orgie, et ils auraient les vidéos, sauf qu'au final, cette vidéo, à la fin, on ne saura jamais si c'était ça, et puis ils la brûlent, ils s'en débarrassent. Par rapport à ça, il y a l'histoire avec les deux nanas, la nana qui a récupéré sa sœur dans une secte. Et du coup, alors le mec qui vient récupérer donc son adepte, finalement, soudainement, il veut cette caméra. Enfin, on ne comprend mais rien du tout.
On a compris que tu étais confus, oui. Fiona.
C'est quand même assez clair parce que c'est cinq petites histoires qui en font, qui se réunissent tous. C'est pas bad time à l'hôtel El Royal, c'est bad timing. Ils arrivent tous en même temps et c'est ça qui fait que ça va poser plein de problèmes. Donc on a un prêtre qui vient récupérer son magot mais qui s'est planté de chambre. Parce qu'il perd la mémoire parce que son magot était dans la chambre 4 et non dans la chambre 5 qu'il a pris. On a une chanteuse. Qui elle a rien demandé. Petite chanteuse de cabaret qui va aller à Reno le lendemain chanter, mais qui du coup est dans la chambre où il y a le magot, donc le prêtre va essayer de pouvoir s'infiltrer dans la chambre, mais comme il l'aime bien, il ne veut pas lui faire du mal et il va lui proposer finalement de partager le magot. On a le vendeur d'aspirateurs qui est en fait un agent du FBI qui vient pour récupérer les micros, les enregistrements. Ça, lui, par contre, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il fait là.
Mais si, il vient le côté justement, lui, il vient chercher la vidéo.
Ah oui, d'accord, il vient chercher cette vidéo, oui, c'est logique.
Mais pourquoi maintenant ?
Ah, bah, parce qu'il a juste appris, on a peut-être appris qu'elle était encore là.
Parce que ça fait des années qu'il est fermé cet hôtel.
Enfin, non, il est pas fermé.
Il est à l'abandon.
Il est en décrépitude.
Oui, parce qu'ils ont perdu leur licence de jeu d'alcool.
Ils ont perdu leur licence
d'alcool. Tu vois, dès le début, on te montre un hôtel qui est vide. Pourquoi soudainement débarque cette personnage le même jour en mettant
dans un hôtel? Oui, c'est pas le timing. C'est le côté très.
Ça tient pas.
C'est un point de départ. Tu peux pas.
C'est
comme si tu disais, ouais, il y a un film qui a commencé, le héros il a gagné l'auto. Mais j'y crois pas, personne gagne l'auto. Mais oui, mais c'est un point de départ.
Non, mais je suis d'accord.
On parle de 7 personnages.
Ils sont que 4, mais il y en a 4 qui effectivement arrivent au même moment. Et donc la quatrième, c'est une fille qui vient et en fait elle a kidnappé sa petite sœur d'une secte en gros. Voilà. Pour la sortir de la secte.
Je ne sais pas que tous ces personnages qui viennent pour des motifs différents.
Non, mais parce que c'est le point de départ en fait. C'est le point de départ.
C'est un point de départ qui est complètement couillon. Enfin,
non,
ça ne marche pas.
Non, là, je suis pas d'accord. Ça serait la résolution où tu aurais 4 personnes qui arriveraient pour te sauver la mise, je te dirais c'est un Deus. Là, vu que c'est un point de départ, tu peux acheter, il y a ce qu'on appelle la théorie du premier mensonge. Pendant le premier quart d'heure, tu es prêt à accepter. Ah ouais, d'accord. Dès le début, tu étais largué.
Dès la première scène, c'est extrêmement mal filmé, mise en scène.
Le premier mensonge, là, c'est le problème, effectivement, c'est là où tu acceptes qu'il y a un peu gros, c'est que ça arrive tous en même temps, vraiment. Il n'y a pas quelqu'un qui est là depuis 2 jours et qui creuse depuis 2 jours sur son
trou. C'est pas grave.
Mais bon, voilà, c'est un peu dans le fun pour moi de. Du côté, ce que j'appelle un peu le côté tarantinesque aussi, quoi, mais...
Non, parce qu'on va arriver à, pour moi, un des soucis d'écriture, c'est que, justement, l'agent du FBI, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Sullivan, je crois, qui est caractérisé comme quelqu'un d'extrêmement efficace, c'est un très bon menteur, il y a une scène de caractérisation où il récupère tous les micros, il est très intelligent, on voit qu'il bosse directement pour Hoover, qu'il l'appelle, donc on voit que c'est quelqu'un qui est très haut placé. Hoover lui dit de ne pas intervenir dans le kidnapping de sa sœur, il y va quand même. Il se fait tuer, mais il se fait tuer parce qu'il fait une énorme erreur. Il ne s'occupe pas de la meuf qui vient de tabasser pour voir si elle était bien immobilisée. Il va tout de suite voir l'otage alors qu'il n'y a aucun danger. L'otage n'est pas en danger de mort. Il aurait pu immobiliser la femme et ensuite s'occuper de ça. Oui. Pour moi, c'est un défaut d'écriture. Et le problème, c'est que cette scène, on la voit 3 fois. Parce que le film est écrit d'une certaine façon que chaque personnage, toutes les histoires se passent en même temps. Et donc à chaque fois, on remonte le temps pour revoir ce qui s'est passé d'un point de vue d'un autre personnage. Et cette erreur... On la voit 3 fois, quoi. Pour moi, 3 fois, je me suis dit, ah merde, il aurait quand même dû s'occuper de la fille qui était par terre.
Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une petite erreur de timing, parce que ce que la petite chanteuse fait pendant le laps de temps, en fait, mettrait trop de temps, entre guillemets, pour qu'elle arrive au point où elle voit le mec se faire tuer. Bon, bref, il y a un petit problème de timing à ce moment-là. Mais il y a quand même, je trouve, des scènes assez surprenantes. Moi, j'étais surprise, justement, de voir le personnage donc, de Sullivan, en plus joué par John Hamm, se faire tuer un peu en plein milieu, vraiment je ne m'y attendais pas. Il y a aussi quand le prêtre essaye de droguer la chanteuse pour l'endormir en fait, et qu'elle lui fout une grosse un coup de bouteille devant
comment elle sait qu'elle a essayé de la
droguer?
Elle l'a vu, était hyper loin.
Là je reconnais que la justification n'est pas terrible. Elle dit à force de traîner avec des filous, j'arrive à voir ce qui me filoute,
j'arrive à la reconnaître. Oui, bon, ça,
mais ça je suis d'accord, ça Marine, je suis d'accord, c'est une mauvaise justification, mais avoue que tu l'avais pas vu venir que le mec d'ailleurs tu sais pas pourquoi il veut la droguer et puis ensuite elle se prend un coup. Ouais, c'est quand même surprenant.
Pour moi c'est symbolique du tout le reste du film, c'est pourquoi les personnages font ce qu'ils font.
Pour moi, c'est vraiment, je l'ai vraiment vu
comme
un espèce de
la droguer. Comment elle sait?
Non, mais qu'il veut la droguer parce qu'il s'est trompé de chambre et qu'il veut pas lui faire du mal. Donc il veut pas la torturer, il veut qu'elle s'endorme dans sa chambre et qu'il puisse entrer et prendre le magot. Pour moi, c'était très clair ça.
Ah oui, ça c'est très clair ça. Il lui dit, je veux te droguer parce que c'est un braqueur, mais c'est pas un tortionnaire. Donc il dit, je te drogue, t'es dehors tranquillement, comme ça je vais pouvoir aller récupérer le magot qui est en dessous.
Pour moi, ce film, il a 3 défauts. Il est trop long. S'il était resserré, vraiment, on sentirait beaucoup plus le rythme de justement cette mise en place un peu particulière qu'ils veulent faire dans ce film-là. Je suis pas sûre que les flashbacks sur leur vie soient nécessaires. Moi, j'aurais bien voulu. Ils nous le racontent en plus ou moins, en plus après, avant. On n'a pas besoin d'avoir des flashbacks sur leur vie, je pense.
À quoi sert le flashback de la chanteuse?
Avant Xavier Dolan, qui
sur le harcèlement sexuel d'une chanteuse.
C'est juste pour leur donner un peu d'empathie, je pense, regarder un peu leur vie, comment elles sont en dehors de ça, quoi. Mais le troisième, pour moi, le plus important défaut, c'est que on nous met un concept de fou, c'est cet hôtel qui est à mi-chemin entre le Nevada et la Californie, et on ne joue pas du tout ce concept.
C'est vrai, Marine.
J'ai pas compris non plus. À quoi sert cette frontière en plein milieu de l'hôtel? Est-ce qu'elle est symbolique de quelque chose? Est-ce que j'ai pensé que comme c'est 2 États différents, éventuellement c'est parce que en fonction des États les lois sont différentes et que ça allait servir dans l'intrigue? Ça n'est pas le cas.
C'est ça le problème, effectivement. Parce que ça aurait dû normalement Le Nevada aurait dû être plus libre que la Californie, etc. Mais c'est pas joué, sauf effectivement, tu avais une idée, toi, je pense, pour le petit personnage de Miles.
Miles qui est
le réceptionniste.
Qui est réceptionniste et qui est quelqu'un qui a vu des horreurs toute sa vie. Là, justement, ça aussi, c'est un ancien soldat. Parce que c'est, justement, la surprise est faite, c'est que c'est un ancien soldat. On croit quelqu'un qui est faible, qui est mal dans sa peau, et il cherche la rédemption. Et pour moi, la ligne, c'est le passage entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'à la fin, il meurt entre les deux en disant c'est bon, j'ai atteint la rédemption et je vais pouvoir aller enfin au paradis. D'ailleurs, il se confesse un faux prêtre, sachant très bien que c'est un faux prêtre, mais on persuadait lui-même dans sa tête que cette confession va lui servir.
Donc en fait, Marine, ce sera un symbole entre le bien et le mal.
C'est une de mes interprétations.
Oui, peut-être pas du tout montré. C'est pas montré. Le début du film, ça n'apparaît qu'à la fin avec le personnage de Miles.
Il faut revoir le film. Mais tu vois que à chaque fois qu'il se passe une saloperie dans la chambre, c'est toujours du même côté. Il se passe rien du côté quasiment
de Californie.
Toutes les saloperies se passent du côté du Nevada. Ouais. Après, il faudrait voir où est-ce que les mecs sont filmés et voir à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal. À mon avis, si on regarde bien, ça se passe du côté du Nevada.
Et là, peut-être que les bonnes actions sont faites du côté californien, mais effectivement, c'est pas assez montré.
C'est pas très sympa pour le Nevada. Du coup,
faudrait revoir, mais à mon avis, quand le prêtre et la chanteuse mangent ou ils sont sympas, c'est du côté de la Californie. Et au moins, elle l'assomme, je pense que c'est du côté du Nevada. Il me semble que c'est ça.
Contre le Nevada, visiblement. Et alors, est-ce que vous avez compris je ne connais pas cet état, mais bon. Est-ce que vous avez compris il y a la télé et on nous montre un reportage, enfin les infos sur visiblement un serial killer qui a tué un couple ou en tout cas un assassin. Et moi, j'étais persuadée que c'était le réceptionniste, que c'était Miles. Sauf qu'en fait, non, parce que c'est un ancien soldat de la guerre du Vietnam et qu'effectivement, il a vu des horreurs et c'est pas du tout un assassin. Et surtout qu'à un moment, il dit j'ai tué des centaines de personnes. J'étais là, j'ai compris un truc. C'est le serial killer.
Enfin.
Oui, c'est vrai que est-ce que c'était censé être le gourou? Là, je pense pas.
Non, c'est
le gourou.
Ce serait Thor, je sais pas. Il s'appelle comment ? Je l'appelle Thor parce que
c'est
Chris Hemsworth. Mais oui, il y a ce personnage, je sais, qui débarque à la fin. Pour moi, ça pourrait être vraiment vu comme du fun, ce film, mais c'est juste pas assez resserré.
Voilà, oui, non, mais pareil.
Effectivement, ça sert pas à grand chose.
Sur Chris Hemsworth.
Non, mais on n'a pas parlé. Billy, il cabotine à mort. Ah ouais. Il a quand même la classe. Je veux dire, moi, je comprends.
Il enlève sa chemise
il est torse nu.
Je pense que c'était dans le contrat de Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, 3 secondes de film, doit enlever sa chemise. Oui. Je pense que c'est écrit dans son contrat.
On voit à quel point les sectes peuvent être dangereux, à quel point moi j'y crois à cette fille qui sont complètement manipulées. Il oblige deux pauvres gamines à se battre devant lui en leur promettant une nuit d'amour. Et il les manipule tellement qu'il va jusqu'à tuer la sœur d'une de ses groupies sans qu'elle ne réagisse absolument. Quoi.
Moi j'y crois. Je pense
on l'a pas assez vu. C'est pareil, c'est comme les animaux fantastiques. Trop de personnages, trop d'intrigues. T'as pas le temps d'y croire, t'as pas le temps de montrer l'évolution des personnages pour comprendre leur psychologie et pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font.
Bah, la petite sœur, on voit qu'elle est quand même mal dans sa tête parce qu'elle a tué son père quand elle était petite. Elle s'amuse avec lui.
Ça, j'avais pas compris ça.
La balançoire.
Le coup du père, là, j'avais pas vu.
Bah, c'est elle qui le tue en fait. En fait, le premier flashback nous fait croire que c'est la grande sœur qui a protégé, mais en fait, c'est la petite sœur qui l'a tuée. Elle a été détraquée, elle s'est fait évidemment qu'elle est tombée dans les bras d'un gourou et elle est tellement tombée amoureuse de lui qu'elle est prête à tout. Et d'ailleurs, la seule mort qu'elle pleure, c'est la sienne. Et on en revient justement à la fin parce qu'il faut qu'on conclue. Le petit réceptionniste Miles, d'ailleurs, pendant tout le film, j'ai cru que c'était Tom Holland qui jouait, le mec qui joue le nouveau Spider-Man. C'est pas lui du tout. Là, pareil, je trouve qu'il joue bien parce qu'il joue un petit mec qu'on croit inoffensif, qui est drogué et tout. Et à la fin, c'est lui qui sauve la mise à tout le monde et qui va tuer.
C'est un super sniper.
Et enfin, il y a une très bonne scène de fusillade où enfin les mecs, il a compris qu'il fallait attendre que les mecs sortent de couvert pour les tuer. Et d'ailleurs, il va jouer dans le prochain Top Gun. Voilà, ça, c'est une info en plus.
Gratuite.
On termine là-dessus, Marine ?
Bah non, je le recommande pas, j'ai rien compris.
Ok, Fiona ?
Oui, un bon divertissement théâtral. J'aurais enlevé les flashbacks et voilà, resserré l'intrigue et l'action.
Écoute, moi j'ai trouvé ça trop long, c'est vrai, mais j'ai trouvé que c'était un vrai bon divertissement. Je le reverrai pas une deuxième fois, mais avoir une première fois, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Voilà. On termine avec les courriers au fuyer de la semaine, les recommandations, les dérecommandations. Cédric ?
Moi, c'est une recommandation. Si vous avez l'occasion de vous rendre à la Cinémathèque de Paris, il y a une exposition sur Serge Léon qui est très sympa. Voilà.
Ok. Claire ?
Alors moi, je vais vous recommander une série, ça s'appelle You. Alors le pitch, je vous le fais rapidement. Mm-hmm. C'est Joe, c'est un libraire, et un jour, dans sa librairie, rentre une belle jeune femme, Beck, et elle est parfaite, et il en tombe éperdument amoureux. Et en fait, la subtilité, c'est que Joe est psychopathe, en fait, et il commence à la stalker, et à la suivre partout, et à décider d'un peu régenter sa vie. Voilà. You.
Très bien, Marine ?
Moi, j'ai une dérecommandation. Mm-hmm. Ça me fend le cœur. L'Hôtel Royal. Ça a compris. Je ne vais pas revenir dessus. Ça me fend le cœur parce que c'est le film des frères Coen que mm-hmm. j'adore donc sur Netflix, qui est La balade de Buster Scruggs. Qu'en soi, alors, c'est différentes nouvelles mis bout à bout. Ça forme un film, mais en fait, il n'y a aucun personnage qui se croise ou que tu retrouves d'une aventure à une autre.
C'est une mosaïque.
Et voilà. Qui en soi, n'est pas, c'est pas que c'est mauvais, mal filmé ou mal écrit. Au contraire, c'est plutôt très beau. Il y a des nouvelles qui sont très bien, c'est assez poignant.
Mais
sur ces 6, je crois, nouvelles, il n'y a qu'une seule qui tourne autour d'un personnage féminin. Évidemment, c'est une histoire d'amour. Ce personnage féminin est complètement stupide. Elle ne vit que à travers le fait que elle ne dépend que des hommes. Enfin voilà, ça ne tourne. Ce qui, en soi, c'est une histoire qui fonctionne et qui est très raccord avec l'univers du Far West. Mm-hmm. Je déplore qu'en 2018, on ait 6 nouvelles différentes dans un même film et qu'il n'y ait qu'une seule histoire autour d'un personnage féminin qui parle de ça. Et le deuxième personnage féminin, c'est une bigote frustrée qui n'a bien sûr pas le personnage principal de l'histoire. Et c'est tout. Voilà.
Va voir chez Spiria, écoute.
Oui, non, et du coup, je ne comprends pas qu'en 2018, on en soit encore à faire ça.
Bah écoute, je te recommande de jouer à Red Dead Redemption 2 parce qu'il y a des très bons personnages féminins dans le Far West.
Pourquoi c'est possible?
Alors moi, c'est à l'occasion de la sortie du film Les Chatouilles, que je n'ai pas vu le film encore, hein, donc, mais je vais le voir, donc je vous le dirai si je vous le recommande ou pas la semaine mm-hmm. prochaine podcast. Mais en tout cas, j'avais vu la pièce de théâtre Les Chatouilles et je crois qu'elle se rejoue un petit peu au Théâtre Antoine. Et cette pièce était vraiment formidable. Donc si vous avez l'occasion de voir Les Chatouilles, allez-y. Même si le sujet, ça traite de pédophilie, est très lourd, c'est pas plombant. La pièce n'est pas plombante du tout. Elle est forte, il y a des émotions, mais il y a aussi beaucoup de moments de rire et de joie et de légèreté, et on n'en ressort pas déprimé ni rien, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir Les Chatouilles.
Ok, bah moi je vais recommander un jeu vidéo, Mario Kart 8, qui est sorti sur Wii et sur Switch, mais on peut y jouer sur PC avec un émulateur qui s'appelle CEMU. Excellent jeu de course, même si je déplore qu'ils ont fait un rééquilibrage complet, c'est-à-dire que les motos ne vont pas plus vite que les voitures, et c'est comme ça que je gagnais, donc du coup j'ai dû tout réapprendre, et je suis nul à ce jeu. On s'arrête là et on se donne rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook de C'est quoi le pitch. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt.